Nous tenons à vous prévenir que cet épisode aborde des sujets sensibles qui pourraient vous heurter. Si vous avez besoin de plus de précisions avant de vous lancer dans l'écoute, vous pouvez vous référer au descriptif en ligne.
Manuel des terres. Des outils, des récits et de la matière pour glisser des petits cailloux dans les bottes et jeter des gros pavés dans la mare agricole.
Une série podcast proposée par Léa Arson et Émilie Serpotion.
Épisode 1, Maïté, Reclaim, des terres et un troupeau.
J'aime mes bestioles, c'est incroyable. Quand je les vois manger, je suis trop contente pour elles. Je les vois choisir librement ce qu'elles ont envie de prélever. De la feuille, des fleurs, des tiges, des machins, enfin, c'est trop bien. J'aime me réveiller tôt. J'aime être devant et appeler mes brebis. Mais j'aime me retourner et voir qu'elles me suivent en toute confiance, aveuglément. Parce qu'il y a des fois, je les emmène dans des trucs, je suis même pas sûre de mon coup. Je me retourne, elles sont toutes là. J'aime le rôle que chacun a. La chèvre, les chiens, l'ânesse, chacun a sa place. Et j'aime voir, en fait, tous ces animaux cohabiter. Ils savent bien faire. Et je me dis, ça peut être mieux faire que les humains. Je pourrais même avoir des poules et des canards, je suis sûre qu'ils trouveraient leur place au milieu du troupeau. Enfin, en fait, ces animaux, entre eux, c'est une unité, en fait. Et moi, je suis devant. Enfin, je suis devant, je suis là aussi. Je pense que j'aime gravir, j'aime marcher, j'aime gravir des sommets, j'aime monter en crête. Métier de berger, c'est ça, c'est d'être présent et de les garder, en fait, avant d'être éleveuse. Je ne sais pas si je suis une bonne éleveuse, mais en tout cas, j'apprends. Je suis bergère avant, et ce que j'aime, c'est d'abord garder, être avec elles, les emmener pâturer. Ça me remplit, en fait. Des fois, quand j'ai des petites baisses d'énergie, je m'accroupis au milieu de mes brebis, je la mets à la même hauteur qu'elles. Et juste, je ressens et je prends leurs vibrations. Et je sens qu'elles me donnent. Et je suis là, mais merci. Et en fait, c'est de l'amour, en fait.
Allez, venez, grosse. Ça fait au pied. Là, derrière. Jaffa, sois gentil. Jaffa, sois gentil. Oh, attention. Alors, Tess. Alors. Comment ça va, mon grosse? Mais oui. Ça va-t-il qu'avant, bonjour. Mais alors.
Juillet 2023, Ardèche-Sévenolles. Premier terrain d'enquête de Manuel des Terres. Nous arrivons à Montselgue, un village perché à 1000 mètres d'altitude où nous sommes accueillis sous les aboiements des chiens. Nous y retrouvons Maïté, montée faire pâturer ses 250 brebis ici, où l'herbe est encore fraîche et nourrissante, même à la saison chaude. Maïté est éleveuse bergère, installée à son compte depuis 4 ans. Elle nous accueille dans son monde pendant quelques jours. Entre sa caravane, les trajets secoués dans son 4x4 et les heures suspendues à garder les brebis ensemble. Mais avant de s'installer avec son propre troupeau, Maïté a été pendant 10 ans bergère salariée auprès de différents groupements d'éleveurs. Comme elle va le raconter dans cet épisode, elle y a appris le métier. Mais elle s'est aussi abîmée dans ce milieu pastoral trop souvent maltraitant et qui lui devient finalement insupportable.
C'est une accumulation de mauvaises expériences, mon déclic. Je pouvais plus, moi, en fait, être non considérée ou mal considérée. La relation homme-femme aussi, misogyne, je l'ai vachement ressentie quand j'étais salariée. C'était trop chiant. Et en fait, quand je regardais des fois des employeurs, je me disais, mais eux, ils sont capables d'avoir des brebis, ces types-là? Ben, si eux, ils sont capables, pourquoi j'en serais pas capable, quoi? Parce que je les trouvais médiocres. Humainement, professionnellement. Pardon. Salut Vincent.
Ouais, Maïté.
Ça va?
Dis-moi, je suis à l'armurerie, là.
Ouais.
Je peux passer chez toi, là-bas, récupérer la cuve?
Ouais, passe la cuve et puis prends tes filets, ils sont sur la...
Prends les filets, sur le tas, vers la maison, là-bas, là, où tu les avais rangés.
Ouais, tu sais, ils sont tous au-dessus, là, sur la ma caisson de froid, là. Une fois que tu auras la cuve, on verra, mais à mon avis, on peut faire le plein à la citerne et...
Voilà, ouais.
Et puis comme ça, voilà, elles sont là, elles pâturent, elles sont en crête, elles sont bien, elles mangent bien la fétuque.
Ouais.
Et ça nous évite de venir deux fois par jour pour les déplacer, les va-et-vient, en fait. Bon, c'est pas...
Ouais.
Hein? Ouais. Ok.
Bon,
mais
je passe chez toi, là-bas.
Allez.
Allez,
à toutes.
Juste avant qu'il appelle, tu parlais de la misogynie que tu avais subie.
Ouais, à fond. C'était insupportable. Bah ouais, c'est toujours réducteur en fait. T'es tout le temps en train de te dire les hommes ils savent mieux faire, ils sont toujours en train de te montrer, ils sont toujours en train de t'expliquer, ils sont pas confiants, ils sont, tu vois, ils sont toujours en train de te sous-estimer là, c'était pénible. Puis il n'y a pas que ça, en fait. Je pense qu'il y a aussi, tu vois, négocier tes salaires, tes conditions. C'est trop chiant, c'est trop pénible tout le temps. En fait, on a marre. En fait, c'est un monde dur, quoi. Parce que quand t'es embauché dans un groupement d'employeurs, tu peux avoir des raclures dans le groupement d'employeurs. Et moi, en fait, j'ai plus envie d'avoir affaire à ce gratin-là, en fait. C'est les mecs, c'est des bourrus, tu vois. C'est... Et puis les femmes, du coup, pour se faire une place parmi ce monde-là, elles sont dures, quoi. On n'est pas obligé, en fait. On peut être doux, en fait, dans ce monde-là. Je pensais à un éleveur qui voulait me mettre dans son lit. Il me disait que la cabane, là-haut, elle était toute petite, qu'il fallait qu'on dorme ensemble. Puis, tu sais, c'est ton employeur, donc t'es impressionné. Et en fait, il a dormi avec moi et puis il essaie de me grimper dessus, direct, évidemment. Et je lui dis, bah non. Et il me dit, mais j'ai froid, faut qu'on se réchauffe, c'est comme ça, la montagne. Enfin, tu vois, en fait, il me forçait la main. Donc, je suis sortie, en fait, et j'ai fini ma nuit sur une chaise. Je suis sortie du lit, j'ai fini ma nuit sur une chaise. Je suis pas descendue de la montagne. Je continuais mon poste. Et c'est après que c'est reparti en live parce que du coup, les brebis se faisaient défoncer par les loups. C'était dans le Mercantour. J'étais le dernier troupeau au mois d'octobre en Crète. Tous les autres troupeaux étaient redescendus, donc je me tapais la meute italienne et la meute française. Tous les soirs, c'était un carnage, quoi. Les loups, ils venaient, ils désinguaient les brebis, les chiens, ils savaient plus où donner de la tête. Et moi, j'appelais mon employeur et je disais, écoute, là... faut descendre le troupeau, là, c'est pas possible, tes brebis, elles sont massacrées, quoi. Je peux rien faire, je suis pas armée. J'ai l'acide lactique dans les bras la nuit, parce que je mords ma couverture, parce que, en fait, je peux rien faire, absolument rien faire. Et je les entends, j'entends le carnage que c'est tous les soirs. Il me dit, oui, mais t'appelles le mec de l'OFB, tu lui dis le nombre de brebis de tous les jours, et ça ira bien comme ça. Je lui dis, mais attends, mais est-ce que t'aimes tes brebis, quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fous, quoi, là? Et là, je me suis énervée, en fait. Je me suis dit, c'est pas. C'est qui ce type, quoi? Enfin, là, ça commence à faire trop. Et je me suis énervée, et puis il est venu, et il a voulu jouer les réconciliations au lit encore. Du coup, il m'a forcé, il m'a basculé sur un lit, et il m'a dit, allez, c'est bon, laisse-toi faire, ça va tout s'arranger. Enfin, il était encore là-dessus. Là, je suis partie de la montagne. Et là, et du coup, je suis descendue, et donc j'étais j'étais quand même très isolée dans le Mercantour. Et quand je suis descendue, j'avais pas de fin de contrat, j'avais pas de chèque, j'avais rien, et j'avais quand même travaillé un mois.
Et il a tardé à me payer. J'ai cru qu'il allait jamais me payer, en fait. Et j'ai dû appeler l'AMSA, j'ai dû remuer tout un pataquès pour avoir ma paye, quoi. Mais... Et ça, en fait, c'est tellement courant, mais tellement courant. Il y a tellement de bergères qui se font avoir comme ça. C'est un espèce de fantasme comme ça. Mais pas que pour les employeurs, c'est clair, mais les gens du village, les mecs du village, des villages en dessous, tu vois. Quand ils savent que c'est des bergers en montagne, on te jumelle de loin, on vient voir un petit peu si t'as besoin de quelque chose, on sait jamais, c'est au cas où. T'es isolé, en fait, t'es vulnérable.
Après notre visite, Maïté est invitée à participer à une table ronde autour des luttes féministes et paysannes. Nous sommes au rassemblement Les Résistantes, sur le plateau du Larzac. Elle décide de prendre la parole pour raconter le viol de sa compagne par son employeur, quelques années plus tôt, lors d'une estive. Maïté ose déplier les faits et exposer devant 300 personnes les violences inacceptables que subissent toujours les travailleuses de la montagne.
On va démarrer la discussion. Vous êtes nombreuses et nombreux sur cette table ronde, reprendre les terres dans une perspective féministe. Nous vont prendre la parole aussi, là je vais juste donner leurs prénoms, Lucie, Maïté, Jonia, Imen, Paul et Dédé, mais elles se présenteront un peu plus longuement quand ce sera leur tour de parole. Maïté, pour... Est-ce que tu veux nous parler d'une expérience, de ton expérience en tant que salarié, puisque ça a été évoqué là, mais comme tu veux.
Quand j'étais en alpage, du coup, il faut savoir que c'est à peu près à 2000 mètres, j'étais embauchée pour la saison en général qui dure 3-4 mois. Donc j'étais assez isolée dans des petites cabanes. Je m'occupais de 1500-2000 brebis toute seule. Et un été, je suis montée avec mon ex-compagne, parce qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. Et il s'est avéré qu'on est parti déjeuner avec nos employeurs à la station la plus proche. À la base, c'était pour refaire du ravitaillement, parce qu'on n'avait plus rien à manger. Et finalement, on s'est fait alpaguer dans un grand repas de restaurateurs, saisonniers, on va dire, de la station, qui ont ouvert le restaurant exprès pour nous alpaguer dans un repas. Ils nous ont fait à peu près boire, manger, mais bon, ça, voilà. C'est pas la première fois qu'on buvait des canons. Mais du coup, on s'est fait droguer, et ma compagne s'est fait violer à la sortie de ce repas par mon employeur, qui est censé nous mettre en sécurité et sur lequel on est censé avoir confiance. Donc voilà, ça a bien cassé le délire pour la saison. Du coup, bah évidemment, il y a eu des plaintes derrière. Deux, du coup, une mon ex-compagne au tribunal pour porter plainte contre viol. Donc elle a été rapatriée par les pompiers et menée à l'hôpital pour les soins et toute la procédure derrière. Et moi, du coup, j'ai voulu me débattre au prud'homme pour légitimiser le fait que c'était une faute grave de l'employeur et pas une démission, parce que c'était pas possible de rester là-haut, évidemment. Donc voilà, des batailles au tribunal. De point de vue de ma compagne, c'était classé sans suite, parce que du coup, ces montagnes-là, elles sont régies par des grandes familles qui ont beaucoup de pouvoir dans les vallées et qui tiennent des grosses crèmeries et des fromageries et qui sont intouchables, même vis-à-vis de la justice. Et moi, j'ai rien lâché. Je me suis fait accompagner pour ma syndicat. À l'époque, c'était la CGT. Et on est parti au prud'homme. Et on a gagné un appel au bout de 4 ans. J'aurais aimé que ma compagne, mais c'est son choix, elle poursuive, mais elle ne s'est pas sentie capable. Et je la respecte. Du coup, Ce qui s'est passé derrière, c'est que du coup, j'en ai parlé à toutes les associations qui recrutent des bergers pour les saisons. Du coup, c'est des groupements d'employeurs, des SEA, Société d'économie alpestre, Savoie Haute-Savoie, la Maison du Berger à Champoléon qui met en relation les salariés avec les employeurs. J'en ai parlé, j'ai fait du bruit. Il s'est passé derrière que les langues se sont déliées et énormément de bergères, en fait, ont malheureusement raconté aussi leurs histoires dans ce même genre. Alors personne n'osait rien dire. Et depuis, en fait, c'est là où on voit vraiment la vulnérabilité des bergères, parce qu'effectivement, il y a énormément, énormément de personnes atteintes par ces sujets-là, par de la violence, par de la discrimination, par du harcèlement moral, physique. Des fois aller jusqu'au viol. Aujourd'hui, il y a des groupes de travail au sein de l'association des bergers. Comment se protéger de tout ça? Comment l'éviter? Des réseaux, des listes noires de montagnes où il ne faut pas aller. Des stages d'autodéfense féminin. Et puis des juristes et des syndicats se sont alliés aussi à la cause. Et aujourd'hui, on a des numéros à qui appeler, des avocats pour nous défendre et des juristes aussi pour nous aider dans ces épreuves-là.
Merci beaucoup d'avoir bien voulu partager ce récit qui est dur. Mais voilà, ça permet de visibiliser ce qui se passe et peut-être de donner la force à d'autres personnes d'en parler, d'être solidaire avec d'autres copines, de briser le tabou quoi, autour de ces violences qui sont malheureusement courantes.
Aujourd'hui, le taux de classement sans suite des affaires de violences sexuelles s'élève à 86% et atteint 94% pour les viols. La plainte déposée par l'ex-compagne de Maïté n'a malheureusement pas fait exception. Comment se reconstruire? Comment guérir? Comment se réapproprier son corps, son métier, ses pratiques, la terre, après un tel saccage? Bien loin des reliefs ardéchois, en Amérique latine, les femmes rurales des communautés autochtones ont développé une idée force, l'acuerpamiento, une guérison collective à la fois corporelle et territoriale. Comme l'écrit l'une d'elles, Lorena Cabnal, féministe guatémaltèque, se guérir implique de retrouver le territoire du corps avec le territoire de la terre, comme une belle possibilité de vie. Nous retrouvons Maïté dans sa caravane pour recoudre les fils de son histoire.
prendre du café.
Du coup, j'ai un parcours très agricole, puisqu'en fait, j'ai été passionnée très vite par l'agriculture et par l'élevage au vin, les brebis, les bergers, tout le monde pastoral m'intéressait énormément. Et en fait, non, mes parents, ils ne font pas du tout ce métier-là. Quand j'ai décidé de rentrer en lycée agricole au lycée, tout le monde s'est un petit peu foutu de moi, en mode la paysanne, la bouseuse, etc. Et donc voilà, en fait, je me suis lancée dans ce métier et j'ai fait ça pendant 10 ans en tant que salariée. J'ai eu des belles et des moins bonnes expériences, jusqu'au jour où j'ai vraiment une très très mauvaise expérience qui m'arrive. Et je me suis bien calmée de ce métier-là, je décide de faire autre chose. Et donc du coup, je tourne sur d'autres métiers finalement. Et c'est au fin fond de l'Amazonie avec les Amérindiens, j'étais instit, que je me suis dit en fait, je suis en manque. Je suis en manque de brebis, je suis en manque de montagne, je suis en manque d'Ardèche. Il faut que je rentre. Il faut que je rentre, mais par contre, je ne veux plus être salarié. Si je rentre et je fais ce métier-là, ça y est, c'est l'aventure d'être à mon compte et de me lancer, quoi, pour moi-même, avec mon troupeau. Et en fait, c'est ce que j'ai fait.
Il y a 5 ans, Maïté débarque en Ardèche avec un C15 et 40 brebis. Elle les a achetées grâce à quelques sous mis de côté pendant 2 ans de boulot alimentaire. Elle se lance dans la recherche de terres agricoles. Mais comment y accéder quand on n'a pas de patrimoine, quand on ne vient pas du milieu et quand on s'installe seul?
Tout mon temps il m'était monopolisé à accéder au foncier. 3 ans à faire que ça, mais vraiment. Je regardais dans l'espace des pâturages potentiellement libres. Je me renseignais s'ils n'étaient déjà pas pâturés par des voisins. Et puis même moi, j'allais voir s'il n'y avait pas de clôture, si c'était intéressant d'y mener des troupeaux, si c'était pas trop embroussaillé, si c'était accessible, s'il y avait de l'eau, etc. Je faisais mon petit tour et si ça m'intéressait, du coup, j'allais sur Géoportail, je relevais les parcelles, les numéros de parcelles, et après j'allais en mairie et je demandais à la secrétaire de mairie ou le secrétaire de mairie de me donner le nom des propriétaires. Et j'ai passé un temps fou et j'ai embêté plein de secrétaires de mairie pour ça, parce que c'est parcelle par parcelle. Et en fait, en Ardèche, c'est sur une superficie de 50 hectares, il y a 100 propriétaires différents. Donc en vrai, ce que j'ai fait une fois que j'ai eu les noms, c'est que j'ai appelé les plus gros propriétaires, ceux qui ont 10, 15, 20 hectares, pour leur demander s'ils étaient d'accord que je passe sur leur terre pour faire pâturer. Souvent, c'est des terres incultes, hein, c'est des terres qui ne sont pas intéressantes, c'est des gras, c'est des collines sèches. Tous les jours, ils me voient passer le matin, tous les matins très tôt, toute l'année. Je ne suis pas une nana du cru, je suis une femme lesbienne, je n'ai pas de mari. Je pense qu'ils m'ont trouvée courageuse. J'ai rencontré les gens du cru, j'ai été accueillie par une famille incroyable avec qui je suis en lien aujourd'hui. Et ils m'ont dit, mais Maïté, viens t'installer sur la commune de Roche-Colombe, on va tout faire pour t'aider, etc. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont parlé au conseil de la mairie. Les conseils de la mairie ont monté une commission pour avertir les habitants qu'il allait avoir une installation agricole, pour voir si ça heurtait pas trop les gens. C'était le cas, hein. Ça n'a pas été facile. Mais voilà, c'est quand même grâce à eux que j'ai réussi à m'installer. Hein. Parce que toute seule, je pense que c'est impossible. Mais dans le temps, c'était des gens du pays et c'était des familles, en fait, qui étaient là, propriétaires sur leur terre. Je veux dire, ils n'ont rien de compte à rendre à personne. Moi, j'ai rien à moi. Donc, tu vois, les terres, si je veux continuer à faire pâturer mes troupeaux, il faut quand même que je sois un minimum sociable, poli, agréable, quoi. Mais après, naturellement, je le suis, normalement. Donc, c'est pas un effort pour moi. Mais du coup, je pense que c'est une qualité que j'ai, finalement, qui m'a aidée. Si j'ai jamais été aussi diplomate que maintenant, en fait. Je pense que quand j'étais salariée, c'était pas la même.
Salut Marie, ça va?
Oui, ça va.
Je suis sur la route, là, je suis en train d'aller en montagne. Je redescends vendredi, normalement. Je vais pas... Je reste 4-5 jours. Tu sais, en fait, ça, dimanche matin, je suis passée chez toi, tu devais dormir, je t'avais acheté des croissants, je me suis dit, tiens, je vais me faire payer le café, en fait, et tout a été fermé. Et du coup, après, je vais chez Claude pour lui payer un croissant, il était déjà allé partir truffer. Et après, je me suis dit, bon, bah, écoute, personne ne me paye le café, c'était dimanche 6h du mat.
Mais non, mais bon, qu'est-ce que tu veux, moi, de toute façon, moi, il y avait du monde, alors. Il y a les enfants, moi, je ne pouvais pas bouger, je n'ai pas dormi la nuit.
Ah, je t'entends plus, Maryse. Je t'entends plus. J'ai plus de réseau. Je t'entends plus.
Donc j'élève des brebis en système pastoral. Ces brebis-là, elles produisent un agneau par an, qu'ensuite je garde sous la mer de 6 à 8 mois, qui est nourri exclusivement au lait et à l'herbe. Et une fois le poids atteint, après j'organise des ventes directement aux consommateurs, donc les gens locaux, quoi. Hein. Et du coup, je vends ça sous l'agneau sous forme de caissette.
En vrai, quand on me demande, oui, c'est pas trop dur pour les agneaux, comment tu fais pour les emmener à l'abattoir? C'est un peu le deal que j'ai avec mes brebis, du fait que je me lève... Enfin, je suis un peu leur esclave, finalement, parce que je me lève tous les matins pour elles. Ma priorité, c'est mon troupeau. Pour leur procurer à boire, à manger, la protection. 365 jours. Et j'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances. L'effort que je fournis pour elles, je me sens légitime en échange, qui est un échange. Et cet échange-là, c'est prélever les agneaux pour nourrir les humains dans les villages autour de chez moi, en fait. Donc, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je prélève des agneaux, je déboule avec mon pick-up, ma bétaillère, etc., je commence à serrer le troupeau pour charger les agneaux qui me paraissent prêts. Et les brebis, elles ne sont pas affolées, quoi. Elles me regardent naturellement, quoi. Pas de stress, quoi. Et un troupeau, il ressent ça, et c'est très bien, hein.
Le pastoralisme, c'est un métier c'est un système qui a toujours existé depuis des millénaires. C'est un des premiers métiers. C'est quand même, on a commencé à élever du bétail et à domestiquer l'animal. On a commencé à migrer avec les troupeaux à la recherche de nourriture et se déplacer au fil des saisons. Et en fait, de pratiquer la même chose, c'est du coup avoir un rôle essentiel. C'est sentir qu'on fait ça. C'est inscrit. Mais la terre, elle nous supporte, elle nous nourrit, elle nous rassure. Et nous remplit d'énergie, en fait. C'est quand même un élément réel.
Nous remercions Maïté d'avoir puisé en elle pour que ce témoignage existe. Il contribue à lutter contre les violences et nous donne de la force. À l'heure où nous publions cet épisode, le procès des 83 violeurs de Mazan est partout dans les médias. Des prises de conscience nouvelles se font entendre ici et là, et un changement d'ampleur est peut-être en train de s'opérer. Gisèle Pellicot, par sa décision d'ouvrir au public le procès de ses agresseurs, nous oblige. Il est plus que temps d'en finir avec la culture du viol. Maïté a osé parler. Des bergères se sont organisées. Ailleurs encore, d'autres paysannes se bougent pour faire monter le sujet. Le monde agricole ne peut plus fermer les yeux. Nous vous invitons à écouter le plateau radio associé à ce documentaire. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec des bergères qui se mobilisent dans les Alpes et dans les Pyrénées. Vous pourrez les entendre raconter leur lutte collective pour la fin de l'omerta sur les violences sexistes et sexuelles en milieu pastoral. Vous trouverez des contacts, des ressources et toutes les références qui ont nourri cet épisode sur le site de Blast, à la rubrique « Podcast Manuel des Terres ». N'hésitez pas à organiser des écoutes collectives et à partager cet épisode. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur l'application Blast. Allez, salut!
Désolé, mais ils ont creusé un crasse trou noir infini et infini à des millions moi dessous. Je reste assis seul à genoux en répétant ça va, ça va, ça va, ça va. Jusqu'à ce qu'arrive la bande, les sons des terres du dessous. Salut, nous sommes la bande, le club, le gang qui reprend tout. Nous allons renverser l'exemple, comment on vit là en dessous. Tenez, voici le manuel, le manuel.
On se retrouve dans 2 mois pour le prochain épisode de Manuel des Terres. Cette fois-ci, nous irons en Aveyron, à la rencontre d'Imen. Imen s'est installée dans cette région il y a quelque temps, dans l'espoir de trouver des terres à un prix abordable, pour pouvoir s'installer comme productrice de plants. Mais tout le monde n'a pas les mêmes clés pour accéder au monde agricole. Imen est musulmane, franco-tunisienne, elle porte le voile et elle n'a pas le moindre capital. Alors comment faire ? Quand on n'a que son corps comme outil de travail. Comment faire quand on te fait constamment comprendre que cette terre n'est pas vraiment la tienne? Quand le droit à l'ancrage, à un chez-soi, t'est systématiquement refusé. Dans cet épisode, on parlera islamophobie, inégalité d'accès à la néo-ruralité, mais aussi amitié et mise en partage des héritages. Rendez-vous le 1er décembre.